Nous sommes au Centre culturel Belvédère, à Mugron, où nous débutons la conférence « Comment concilier sobriété foncière et besoin d'accueil des territoires ?» Nous sommes le mardi 2 juillet 2024. Cette conférence se tient comme introduction à l'étude autour des formes urbaines des villages landais et des hypothèses de densification respectueuse de la qualité urbaine dans une logique de sobriété foncière. Cette dernière est menée par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Landes, accompagnée d'un groupement pluridisciplinaire, composé de Selva Emogin, architecte et urbaniste, Tout-Terrain, architecte, urbaniste et médiateur, Antoine Mounier, architecte, Antoine Maréchal, illustrateur, et Clara Choulet, graphiste. Cette conférence propose d'introduire les notions de sobriété foncière et de villes et villages stationnaires pour se questionner collectivement sur les nouveaux modèles d'aménagement à adopter. Elle est menée par Clémence de Selva Emogin, modérée par Tiffaine Sirio, de Tout-Terrain, et introduite par Antoine Mounier. Partie 3. Ressources bâties et foncières déjà existantes dans les villes et villages.
La construction de logements est souvent citée comme la solution pour répondre à la crise du logement. Et toi, Clémence, tu proposes une autre approche qui est basée sur, comme tu l'as dit, une meilleure lecture des ressources bâties, c'est-à-dire celles qui sont déjà construites et que tu invites à mieux utiliser, à mieux occuper pour tendre vers une répartition du déjà-là. C'est aussi un point que tu as développé dans le travail mené sur le territoire du Grand Poitiers, dans le cadre de territoire pilote de sobriété foncière. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu entends par mieux utiliser les ressources bâties ?
Alors, mieux utiliser les ressources bâties, on est toujours là. Toute l'explication que je viens de faire, l'introduction que je viens de faire, c'est un peu la question des limites planétaires. C'est-à-dire, c'est une entrée très écolo, finalement, sur le plafond des limites planétaires. Mais on sait bien qu'on a aussi des besoins en logement et on a aussi le plancher social, comme on dit. On a besoin de logements, mais aujourd'hui, on sait que pour un habitant supplémentaire, on construit deux logements. Alors, bon, il faudrait peut-être remettre à jour mes chiffres qui datent de 2020, je crois. Pour 165 nouveaux habitants par an, nous produisons aujourd'hui 350 000 logements, parmi lesquels 50 000 résidences secondaires et 50 000 logements vacants. C'est des ordres de grandeur. Alors, ça ne veut pas dire qu'on construit des logements vacants, mais ça veut dire que ce qu'on construit génère ailleurs de la vacance. Et évidemment, principalement dans les centres urbains, des petites, moyennes agglomérations. Pour remettre ça à une échelle d'une opération de logement, ça veut dire que pour chaque opération de 35 logements, 5 se vident quelque part. Par exemple, un jeune couple qui préfère s'installer dans un nouveau pavillon ou dans un lotissement plutôt que d'assumer la réhabilitation d'un logement d'une bâtisse de centre-bourg, par exemple. Parce que cette bâtisse, justement, elle est moins concurrentielle que la maison de nouveau lotissement qui vient de se construire. Elle est moins confortable, il y a plus de travaux à faire, etc. C'est justement cette question du recours systématique à la forme du lotissement, parce que le lotissement, il a pour fonction et pour rôle souvent dans une ville de doper par à-coup l'apport de population pour sauver une classe, pour sauver une école primaire. Mais c'est aussi une population qui va vieillir en même temps. Une fois que les enfants sont partis, 15 ans, 20 ans après, il faudra de nouveau sauver l'école communale et finalement, on n'aura pas d'autres réflexes que de faire un nouveau lotissement à la suite, alors que on peut avoir aussi des personnes âgées justement qui restent seules dans ces maisons qui sont du coup trop grandes pour eux et dont ils aimeraient peut-être ne plus avoir à s'occuper du grand jardin, etc. Donc on se retrouve avec une fragilisation finalement des centres-bourgs et puis des commerces et des services qui sont liés à ces centres-bourgs. Donc ça, c'est une... Évidemment, j'ai décrit la situation sur une seule ville, mais à l'échelle communale, mais ça pourrait très bien être... on sait bien que la métropolisation, la littoralisation participent évidemment de ces phénomènes de finalement de générer de la vacance. L'autre levier qui nourrit la demande en logement et qui nourrit le besoin, c'est le desserrement des ménages, le fameux desserrement des ménages. Donc c'est une réalité sociologique et démographique, c'est que la taille des foyers français, elle est passée donc de 3,1 personnes dans les années 60 à 2,2 personnes aujourd'hui. Voilà, c'est des phénomènes qu'on connaît bien, la décohabitation des jeunes, la séparation, le vieillissement de la population, les séparations, le vieillissement de la population, le maintien à domicile. Ce qui fait que finalement, à la fois, ça pousse le besoin en logement parce qu'à population constante, on a besoin de plus de logements. Mais le corollaire de ça, c'est qu'on a aussi un phénomène de sous-occupation qui s'installe. C'est-à-dire que lui, autant les ménages deviennent plus petits et plus nombreux, autant lui, le parc de logements, le parc installé, comme on pourrait dire dans le domaine de l'énergie, mais en gros, le parc installé de logements, lui, il n'a pas bougé. Il y a une forme d'inertie du parc. Donc ça, on le voit bien. Donc il y a un phénomène de... Sur les chiffres et les statistiques, pour préciser, donc jusque dans les années 2000, le couple avec enfant était majoritaire, mais depuis les années 2000, il est juste en troisième position. Or, dans le même temps, les grands logements de 5 pièces et plus sont au contraire devenus majoritaires dans le parc qui existe, dans le parc de résidence principale. Donc on a un phénomène qui est lié à cette taille de ménage, qui est lié aussi au parcours résidentiel, parce que de la famille avec enfants, on pense aux enfants qui partent du logement de leurs parents et des parents qui conservent une maison assez grande. Donc là, ça aussi, c'est plutôt un modèle particulier familial qui génère aussi un phénomène de sous-occupation. Et la sous-occupation dans le code de la construction, la définition, on considère comme insuffisamment occupés des logements qui ont 3 pièces de plus que le nombre de personnes dans le ménage. Ça représente environ 8 millions de logements qui sont sous-occupés, à mettre au regard de environ 3 logements vacants. Donc c'est en ordre de grandeur, c'est beaucoup plus que les logements vacants. Or, c'est un phénomène qui est très peu présent dans le débat public, parce que c'est un phénomène qui génère pas du tout de précarité ou qui génère pas de mal logement. En fait, on est très bien. Qui génère moins de précarité que la suroccupation, on va dire. Alors, le message, évidemment, c'est pas de dire qu'il faut imposer le déménagement ou la colocation, ou imposer la colocation, évidemment, mais disons que c'est, de façon générale, c'est lutter contre les produits génériques logement, en fait, et l'homogénéité du parc. Donc, le produit générique qui tient pas en compte, qui prend pas du tout en compte les évolutions de la société, les formes émergentes de ménages, en fait, notamment les ménages qui n'ont pas d'enfants, les familles recomposées, en fait, ou alors les jeunes retraités. Et de veiller de soutenir des solutions aussi de recohabitation, pourquoi pas, type béguinage, type cohabitation intergénérationnelle, habitat partagé ou accueil d'étudiants, parfois dans les grandes villes, c'est aussi ça la solution. Les deux messages, c'est plutôt dire que globalement, les grands logements, on les a déjà, presque. Il y a des communes où tout est là.
Je te propose de donner un exemple, justement, pour illustrer cette relation entre ce qu'on peut appeler déprise, ou en tout cas le fait que les centres-bourgs se vident et construction en extension. Tu as fait l'exercice de proposer une nouvelle programmation de logement à Lusignan, qui est une petite commune proche de Poitiers. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments de compréhension de cet exemple qui peuvent peut-être résonner avec des situations similaires sur le territoire landais ?
On a du mal à comprendre comment agir justement sur la sous-occupation. On sait bien expliquer en quoi c'est un gisement quelque part, au même titre que la vacance, on a du mal à comprendre comment agir, en fait. Ça va être un peu la question du moment. Donc là, alors c'était un sujet à Lusignan, qui est un pôle de l'espace rural. C'était 2700 habitants, Lusignan, à 30 minutes de Poitiers, avec une gare. Alors avec une forte décroissance démographique depuis les années 80, peinant à même inverser la tendance. C'est une petite ville de demain avec un programme Petite ville de demain. Donc une commune qui est fortement touchée par la vacance en centre-ville. Et aussi, statistiquement, on a vu que la commune était aussi fortement touchée par la sous-occupation des tissus pavillonnaires, ce qui finalement accentue le sentiment de perte d'attractivité. On a recensé, c'était les statistiques de l'INSEE, 480 logements sous-occupés, soit 4 résidences principales sur 10, en fait, 42%. Donc 42% du bâti de cette commune est vide ou alors sous-occupé, c'est-à-dire une ou deux personnes. Or, on avait une friche de centre-ville. Donc souvent, les communes ont une friche de centre-ville. Donc là, c'était la friche des Châteliers, environ moins d'un hectare, donc 0,7 hectare, 7000 m². Presque en centre-ville, c'est-à-dire vraiment dans le tissu faubourien qui est jouxté directement le centre-ville, donc proche des commerces et des services. Et où là, le projet, à la base, c'était de faire un petit lotissement de 4 à 6 maisons. Enfin, donc de vendre à la découpe avec un produit qui était identique à celui qui existait autour, plus loin dans les lotissements. Or, la réflexion, ça a été de dire qu'au contraire, on pourrait, juste en s'adossant au type de densité qui avait déjà assez resserré dans ce bourg patrimonial, avec des maisons mitoyennes assez resserrées, juste en fabriquant une densité similaire à ça, et en créant, en recherchant des typologies qui soient variées, des plus petites typologies. C'est-à-dire que la réflexion, c'était de se dire qu'il n'y a pas de raison que les petits logements soient relégués dans des appartements, qui soient dans des espaces de relégation quelque part, pas dans les centres. Les gens ont aussi envie de rester dans leur quartier, dans leur lieu de vie, proche des commerces. Donc il faut aussi créer des petits logements de plein pied adaptés à toutes les formes de ménage, y compris la vieillesse, donc de plein pied. Alors que tout le patrimoine bâti, là, en l'occurrence, c'était plutôt des maisons sur sous-bassement, donc où on est obligé de monter un escalier pour accéder à l'étage principal. Donc là, de créer des petits logements de plein pied, des 3 pièces, par exemple, qui puissent avoir la capacité d'encourager une forme de rotation et qui puissent faire exister les parcours résidentiels, en fait. Et donc d'encourager une forme de rotation des ménages, de libérer quelque part des maisons qui seraient plus loin dans les lotissements. Donc c'est une forme de création de logements, pas direct mais indirect.
Donc finalement, on vient d'explorer la mobilisation des ressources bâties, et tu l'as dit dans un premier temps, continuer à construire est pour autant nécessaire. Et donc dans ce cas, on peut aussi s'intéresser aux ressources foncières disponibles, c'est-à-dire celles qui sont déjà considérées comme artificialisées. Donc Clémence, est-ce que tu peux nous dire quelles sont ces ressources foncières justement, et quelles pistes de renouvellement on peut envisager grâce à ces ressources ?
Donc on a bien compris que s'intéresser d'abord au patrimoine bâti, c'est la première des sobriétés foncières, parce que c'est ne pas avoir à construire quelque part. Donc ne pas avoir à construire, c'est la première des attentions, parce qu'on n'utilise ni sol ni ressources en matériaux. Ensuite, évidemment, on sait bien qu'il va falloir atterrir, il va falloir quand même continuer à produire et à construire. Et donc la deuxième question, c'est où est-ce qu'on positionne les nouvelles constructions, si on raisonne en renouvellement urbain, en densification et non pas en densité, enfin en quelle est la bonne densité quelque part. Donc finalement, là, la réflexion, c'est de plutôt... au lieu de fabriquer des nouveaux quartiers, donc les plus écolos soient-ils, des écoquartiers, etc., pourquoi ne pas réinvestir ? Donc c'est l'idée de réinvestir les espaces urbanisés qu'on a déjà, donc soit dans les interstices de la ville. Donc en renouvellement. Alors évidemment, les premiers lieux ressources ce sont, auxquels on pense et qui sont déjà très fléchés par les politiques publiques, ce sont les friches, il y a les dents creuses urbaines aussi, mais aussi voilà, les friches, parce que ce sont des fonciers finalement d'un seul tenant. Mais évidemment, toutes les villes n'ont pas de passé industriel, toutes les villes n'ont pas à disposition comme ça des fonciers, des grands fonciers aussi difficiles à activer soient-ils. Donc on peut aussi examiner d'autres lieux ressources, d'autres tissus qui sont par exemple les entrées de ville, les tissus pavillonnaires, les lotissements aussi, par exemple dans les lotissements de première génération où les parcelles sont plus grandes, les tissus faubouriens, et pour comprendre comment s'inscrire en fait en densification douce, c'est-à-dire sans forcément détruire, c'est-à-dire comment renforcer les tissus souvent monofonctionnels en fait, parce qu'un lotissement c'est ça, c'est un tissu monofonctionnel où il n'y a que des logements en plus souvent de la même, plus ou moins de la même typologie de logement, la même taille de parcelle. Donc comment est-ce que pour ceux qui ont le plus grand parcellaire, comment est-ce qu'on investit en fait une forme de densification à l'intérieur de ces quartiers? Alors pour ce qui concerne la densification douce, donc sans détruire, ça peut être aussi, enfin on dit aujourd'hui, il y a des études sur la densification douce des tissus pavillonnaires qui en font une forme de, enfin un complément à la production traditionnelle de logements aujourd'hui. Avec ceci d'intéressant, c'est que on peut continuer à produire de la maison individuelle. Alors que pourtant, on a tendance à dire qu'aujourd'hui, c'est fini la maison individuelle. Ben, c'est peut-être pas si fini que ça, parce que là, on peut en produire, mais dans les tissus qui sont déjà qui offrent encore de la place pour construire.